ces festivités commémoratives de la Journée internationale de la femme, du 18 au 21 mars 2010, Radio Capi et la section Jean de la MONU vous proposent en direct de la Pékin la première édition kermesse Paix et égalité des chances dans un Congo cinquantenaire. À l'affiche, animation culturelle, exposition de produits par les femmes, présentation théâtrale, exhibition des danses folkloriques et autres. Radio Capi, la radio service de la femme.
Monsieur Paul Mbola, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Vous savez, le mois de mars, c'est le mois de la femme.
Hein. Évidemment, oui. Salut à toutes les mamans, et particulièrement les mamans éducatrices à la vie de la République démocratique du Congo et celles qui sont d'ailleurs.
Voilà, mais on apprend qu'il y a certaines femmes qui sont victimes des violences au niveau du foyer. On signale que dans certains foyers, la femme se plaint d'être victime des violences de la part de son mari, violences liées à la sexualité dans le couple, ou encore aux actes de brutalité de l'homme, ce qui peut entraîner des conséquences sur la santé physique et mentale. Alors, M. Paul Mbola, comment gérer ce genre de situations dans un foyer, dans un couple?
Merci beaucoup, Daniel. La première chose, c'est de se dire qu'il y a plusieurs types de violences qu'on peut classifier en violences physiques, verbales ou psychologiques, selon que ça porte directement atteinte au corps ou... ça passe par des blessures humiliantes, notamment les injures, les menaces verbales, ou encore par des attitudes et des gestes qui humilient la personne victime. Dans le ménage, il n'y a pas que la femme qui est victime, il y a
l'homme aussi.
Tous les composants de la famille qui sont souvent victimes. L'homme, la femme, comme les enfants. Mais comme en ce mois de femme, nous nous intéressons à la femme, nous allons plus nous intéresser aux violences de ménage subies par la femme.
Oui.
Et la deuxième chose, c'est de se dire que la lutte entre l'homme et la femme date de très longtemps. Vous allez remarquer que là où à certains endroits on pratique la polygamie, à d'autres endroits il y a la polyandrie. Cette lutte exige que l'homme et la femme s'harmonisent. Mais l'éducation comme les structures mises en place par la communauté ont fait que aujourd'hui l'homme domine sur la femme. Et qui devient violent? C'est celui qui a été éduqué dans la violence, et particulièrement par une mère qui a voulu que son enfant devienne violent.
Mais on a appris qu'il y a aussi des femmes qui battent leur mari.
Oui. Là où l'enfant a vu sa mère battre son père, il est évident qu'elle aussi tentera de battre son mari. Et surtout, si elle a assez d'énergie, elle va le faire. Et en revenant à votre question, je dis comment remédier à cette situation. La première chose, c'est de se dire qu'il faut s'attaquer à toutes ces sources de violence. La première, c'est l'éducation. C'est une façon de prévenir la violence plus tard, bien sûr. Il s'agit de ne pas faire comme beaucoup de mamans font. On t'a frappé là-bas, mais pourquoi tu viens pleurer ici? Va rétorquer. Ça, c'est déjà une préparation, une prédisposition à la violence. Deuxièmement, il ne faudra pas que non plus que les enfants voient les parents se battre ou se faire violence, et particulièrement les pères manifester une certaine animosité, une certaine brutalité vis-à-vis de la mère. Sinon, et les garçons et les filles copient ce modèle.
Alors, M. Pondoula, on va y revenir tout à l'heure. Je vais donner un exemple concret. Un mari Soula qui revient souvent vers 2h, 3h du matin, et quand il revient à la maison, il bouscule, il tape sa femme et il exige qu'on lui prépare un foufou chaud immédiatement. Donc, il ne veut pas manger ce qu'il a. Il faut un foufou très chaud à ce moment-là. C'est également une forme de violence.
C'est une forme de violence.
Alors, pour arriver à mettre fin à ça, il faut aider cet homme à cesser de se saouler tous les jours.
Oui, pourquoi il se saoule, c'est aussi un autre aspect de la question.
Oui.
Il faut commencer par là. Pourquoi il se saoule? Est-ce par habitude, ou pour consolation, ou parce qu'il a des problèmes, ou parce qu'il ne sait pas supporter cette femme, ou parce qu'il ne supporte pas la vie de la famille? Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'il faut prendre en charge quelqu'un qui est déjà malade, comme on dirait, de l'alcool. Parce qu'il est dépendant. Je dis que celui-là, il faut le prendre en charge. Mais il faut prendre aussi la famille en charge. Le couple, le ménage en charge parce qu'il faudra, dans tous les cas de violence, amener, ménager je veux dire, mm-hmm. il faut amener l'homme et la femme à échanger, à partager, non seulement à se tolérer, mais s'ils veulent tenir à leur ménage, que chacun puisse s'amender afin mm-hmm. qu'il aille vers l'autre en considérant que c'est un être humain mm-hmm. et qui mérite considération et non pas un animal de somme qu'on doit frapper ou qu'on doit injurier ou qu'on doit humilier d'une manière ou d'une autre.
Nous avons en ligne M. Touré depuis Colosie. Bonjour.
D'une manière ou d'une autre. Nous avons en ligne M.
Touré. Touré, bonjour.
Bonjour, monsieur.
S'il vous plaît, éloignez-vous de votre
bonjour, poste. Bonjour, j'ai
et veuillez vous éloigner de votre poste récepteur. Nous avons un feedback à l'antenne.
Oui.
Voilà. Et posez maintenant votre question.
C'est déjà fait. J'ai dit, ma préoccupation, c'est en rapport avec les hommes qui se saoulent.
Oui.
Parce qu'on ne doit pas parler seulement de la femme qui est violée. Est-ce qu'une femme peut aussi violer un homme?
Merci beaucoup pour la question, M. Paul.
Oui, une femme peut violer un homme, c'est sans doute. C'est parce que si nous devons considérer le viol ou la violence comme tout acte ou réflexe ou attitude ou négligence ou contrainte imposée à l'autre et qui peut provoquer un traumatisme, la femme peut aussi faire des choses qui peuvent blesser l'homme et amener un traumatisme. Et même dans le cadre sexuel auquel vous faites allusion, ça peut arriver. J'ai connu des hommes qui ont fui le ménage parce qu'ils ne pouvaient pas supporter telle femme qui, chaque jour, au retour, demandait d'avoir plusieurs fois le rapport sexuel. Mmh. Et l'homme n'en était pas souvent capable. Et avec un certain âge, il était incapable d'assouvir le besoin de sa femme. Mmh. C'est qu'il devait, à un moment donné, fuir parfois la maison. Donc, il est évident et possible qu'une femme puisse violer l'homme. Et sagement ou consciemment ou inconsciemment, elle peut trouver de moyens pour faire à l'homme ce qu'elle voudrait sans que l'homme y consente.
Mais généralement, dans un couple, c'est l'homme qui vient et qui sollicite sa femme pour des rapports sexuels, mais même si elle est fatiguée, il tient à ce qu'il ait des rapports sexuels. C'est également une forme de violence. Alors, pour des tels cas, comment amener l'harmonie au sein du couple?
Oui, Daniel, il est des pratiques aujourd'hui qui montrent que la femme accepte parfois tacitement ou devient complice de la violence dont elle subit. Mm-hmm. Parce que les mécanismes sociaux mis en place aident déjà la femme à accepter cette violence. C'est comme ça que lorsque vous dites que la femme peut à un moment donné subir parfois des brutalités ou des exigences de son mari, on dira que cette femme est-elle capable, est-elle consciente, est-elle capable de dire non ou trouve-t-elle autour d'elle des moyens pour dénoncer cette violence et en même temps trouver secours. Nous souffrons beaucoup aujourd'hui que nous voyons les femmes parler de parité pendant que ces mêmes femmes mm-hmm. n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour conscientiser celles qui croient qu'il est normal que l'on puisse être battu. Vous connaissez même des chansons célèbres telles que Mako Finaliba, la Mako Fiela Kisane Bolingo.
Donc, ah bon?
Oui.
Donc,
un grand de notre de notre musique qui a dit que Nalibala.
Il faut Mako Fiela.
Mako Fiela. Non. Écoutez. Est-ce que la femme mérite d'être battue? Est-ce que l'homme mérite d'être battu? Je pense que tout coup fait mal mm-hmm. à l'homme comme à la femme. Donc il faudrait travailler de sorte que l'on puisse plus dialoguer, plus réfléchir ensemble pour corriger ce qui ne va pas, que qu'aller à l'humiliation ou au coup.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Depuis Siro, Madame Marie Bernard, bonjour.
Bonjour, messieurs, bonjour à l'invité.
Oui, on vous écoute, madame.
Je n'ai pas suivi tout le début de l'émission, mais je pense que vous parlez de comment remédier aux violences dans les foyers.
Oui.
Ben, je pense qu'on peut remédier les violences dans les foyers par le dialogue. Mais ma question à l'invité, c'était de savoir comment remédier avec un mari qui vous rentre toujours tard, et quand il rentre, il est toujours trop virulent. Comment vous pouvez dialoguer pour remédier au fait à cette violence-là? Merci.
Merci, madame.
Merci, madame. Il y a plein de sagesse dans la tradition africaine où on a montré que la femme était capable, est allée voir un devin qui devait lui procurer un fétiche pour dompter son mari. Je crois que vous connaissez cette histoire. Et comment est-ce que la femme est arrivée à arracher un poil du lion? Et c'est comme ça que le devin lui a dit, comme tu as fait pour le lion, fais-le pour ton mari. Il faut se dire que cet homme n'a pas été comme ça au début de votre union. C'est qu'il y a eu un début. Et ce début peut être justifié par une cause qui est interne, qui est qui relève du foyer, comme ça peut venir de l'extérieur. C'est peut-être à ce moment-là qu'on devait déjà gérer les débuts du conflit. Mais lorsqu'on est en plein conflit, et comment remédier à la question? La règle du dialogue, c'est de choisir le moment, c'est de choisir les lieux, c'est de choisir les mots et des attitudes qui peuvent amener l'autre à réfléchir. Écoutez, toutes les femmes qui savent que le mari prend un verre de trop savent trouver des petits tricks qui font que après avoir pris telle ou telle boisson, l'homme peut comme ça revenir à la raison et commencer
à poser le problème à ce moment-là.
Ou encore, après que l'homme se soit reposé le matin ou à certaines heures de la nuit, il est souvent conseillé que la femme puisse aider son mari à réfléchir sur la situation de la famille et particulièrement sur le rapport avec l'autre. Donc, le dialogue, oui, comme vous l'avez dit, mais comment mener un dialogue avec un homme qui est rare à la maison? Il faudra trouver des tactiques, des moments, choisir des mots, des attitudes et même des personnes qui peuvent parfois faire le pont pour que vous puissiez arriver à asseoir le dialogue en famille. C'est la solution magique, mais elle n'est pas magique du tout. Elle est pratique si vous savez vous y prendre. Parce que la règle de la communication, c'est d'éviter de susciter un autre conflit quand vous êtes en train de chercher à résoudre un.
Là, on entend souvent certaines mamans dire « Ah, liba la monga la fanika rapona bana, soki bana te, ne na sina kena nanga kala ». Peut-être que vous avez aussi déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire que donc elle est là seulement pour les enfants, mais le cœur n'y est plus. Peut-être que le mari la trompe avec des petites filles du quartier à gauche à droite. Monsieur Paul, pour ce genre de situation, vous préconisez toujours les dialogues?
Le dialogue n'est pas exclu même dans ce cas-là, Daniel. Dans la mesure où, comme je dis, un conflit a toujours des origines. Il y a des hommes insatiables, comme on dit, par rapport au rapport sexuel et qui vont avec des petites filles comme vous voulez, et comme on dit parfois que les hommes ne vieillissent pas, ils croient renaître dans la femme et dans les relations sexuelles. D'ailleurs, on peut réaliser que ces viols ou violences, même qui sont installées dans les foyers, sont aujourd'hui déjà entretenues par les systèmes sociaux. Ce qui fait que même quand elle doit pleurnicher comme ça, dire qu'elle est là pour les enfants, c'est qu'elle ne trouve pas d'autre issue que rester là et accepter la violence. Qu'est-ce que notre communauté offre à la femme pour qu'elle puisse dénoncer ce genre de violence? Et en plus, même si elle peut dénoncer, peut-elle trouver gain de cause? C'est une démarche qui doit être menée et une réflexion qui doit être menée profondément par les femmes aujourd'hui, au lieu de faire de la journée du 8 mars la journée du pain.
Voilà, il y a aussi certaines femmes qui souffrent terriblement dans leur cœur et elles préfèrent, au lieu d'en parler, elles préfèrent garder ça et puis subir certaines attitudes, gestes ou menaces verbales de la part de son mari. Alors, vous avez dit, la solution, c'est d'abord le dialogue franc entre les partenaires. Mais si, malgré qu'on arrive à dialoguer, on ne trouve pas des solutions, est-ce qu'il faut recourir à une tierce personne, au parrain ou aller voir quelqu'un d'autre?
Oui, lorsque deux personnes ne peuvent pas s'entendre, même la Bible le dit, il faut une troisième personne. Cette tierce personne ne doit pas être n'importe qui, sinon il envenime aussi la situation.
Pas les membres de famille.
C'est pas d'abord à eux qu'il faut penser. Il faudrait d'abord regarder autour de soi s'il n'y a pas de personne, s'il n'y a vraiment personne que monsieur peut écouter et qui peut s'amender sur son conseil. Les membres de famille ont déjà leur parti pris et vous amèneront à tout prix à casser si c'est possible parce que personne ne voudrait voir sa soeur souffrir, personne ne voudrait voir sa fille souffrir, comme on ne voudrait pas non plus que son frère soit écrasé par une femme. Oui. Mais ça, c'est ce que nous entendons dans la communauté. Mmh. Alors, si vous amenez votre problème en famille, rassurez-vous qu'on vous donnera des arguments pour casser. Or, vous vous étiez unis pour le meilleur et pour les pires.
Donc, il ne faut surtout pas s'adresser aux membres des deux familles.
C'est la dernière ressource.
Ou soit les amis du mari.
Commencez par voir s'il n'y a pas de mari, de amis dans la famille. Les parrains, s'il est bien formé, ils sont bien éduqués pour résoudre un tel problème. S'ils ne le sont pas, autour de soi, il y a les hommes d'église, il y a même la justice. Hein, des conseillers conjugaux qui peuvent venir en aide dans des cas extrêmes.
Mais les conseillers conjugaux, où est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce qu'ils sont partout à travers la République?
Ils sont partout à travers la République et particulièrement dans le service qui m'emploie, c'est le service central éducation à la vie. Mmh. Il est constitué de conseillers conjugaux qui peuvent facilement amener une réconciliation.
Et votre service est partout à travers la République?
Oui, notre service est dans toute la République et nous avons des antennes à travers la République. Donc, il suffit de nous appeler pour que nous puissions vous recommander dans l'une ou l'autre antenne.
Voilà, donc des questions, des réactions, composez le 081-890-6394 ou écrivez-nous à service@radiocapi.net.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
En ligne depuis Mbandaka, Joël, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, il y a souvent lorsque les enfants adoptent un comportement que les parents, les pères n'aiment pas, les hommes ont souvent l'habitude de dire que la faute incombe aux femmes. Alors ma question est de savoir lorsque cette violence à l'égard des femmes.
Oui, répétez, quelle est la question?
Si l'enfant adopte un comportement contraire à la morale, chaque fois les hommes disent que la faute incombe aux femmes. Alors, cela aussi, c'est une forme de violence.
Monsieur Paul.
Merci, Joël. C'est vraiment une forme de violence parce que quand un enfant me comporte, on doit savoir d'où vient ce comportement.
Et généralement, quand une fille tombe enceinte, c'est fini. C'est la maman, donc directement, quand le papa apprend, c'est la maman qui va payer le prix. Hein.
C'est ce que nous classons parmi les pressions psychologiques et affectives que subissent les femmes.
Oui.
Et ce n'est pas correct parce que le comportement d'un enfant ne dépend pas seulement de ce qu'il a appris en famille, mais aussi parfois ce qu'il a appris dans la communauté. Donc, père et mère doivent s'asseoir ensemble pour voir telle pratique, telle attitude ou tel comportement adopté par l'enfant peut et proviendrait éventuellement d'une source qu'on doit identifier et chercher ensemble comment y remédier. Quand il est devenu trop tard, tel que dans le cas de grossesse, il faudra qu'à un moment donné qu'on s'assume, qu'on se dise tous les deux nous avons échoué. Les bagages éducatifs que nous avons donnés à l'enfant ne lui ont pas permis de faire face aux différentes sollicitations des garçons et nous devons nous reprendre de sorte que nous l'aidions pour que plus tard, elle ne tombe plus dans le piège.
Ouais, souvent, les papas disent que c'est la maman qui reste tout le temps avec les enfants à l'école et c'est elle l'éducatrice. Donc, si l'enfant est tombé enceinte, donc c'est la maman, pas le papa.
C'est trop trivial parce que si on compte le nombre d'heures que la mère est avec les enfants et le nombre d'heures que les papas est avec les enfants, on verra effectivement que parfois, les heures de la mère avec les enfants sont supérieures au nombre d'heures que l'enfant va passer avec son père. Ça, c'est vrai. Mais quand l'enfant va à l'école, quand l'enfant va jouer, il n'est ni avec papa, ni avec maman. Alors, qu'il faut condamner là? Pas la maman surtout et pas le papa. Donc, il faut se dire que tous les deux, on doit porter la responsabilité parce qu'on n'a pas suffisamment aidé l'enfant à faire face à la rue. Parce que la rue n'apporte pas que du bien, mais se plaint d'embûches. Et c'est là où l'enfant peut attraper une grossesse, si la grossesse ne vient pas de la famille.
Et si, par exemple, dans un couple, le mari tout le temps injurie la femme, et il va même au-delà, il injurie sa mère, il injurie son père, ses arrière-grands-parents, et puis toute la lignée. Alors, avec un mari comme ça, M. Paul Mboula, qu'est-ce que la femme doit faire? Tout doit se résoudre par le dialogue?
Quand est-ce qu'on a découvert cet homme et comment on est arrivé à s'unir avec lui?
Oui. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'injuriait pas encore.
C'était déjà un problème de choix parce que, Daniel, c'est vrai qu'il n'injuriait pas, mais ça, c'est ce que nous disons à toutes les jeunes filles qui veulent s'engager au mariage, pas seulement aux filles, mais aux garçons aussi. Mm-hmm. Il faudra se connaître mutuellement pendant les fiançailles veut dire aller dans la famille. Faire attention aux petites questions et petits éléments qui peuvent déterminer le comportement de la personne. Vous retrouvez qu'en famille, les gens peuvent facilement s'injurier. Rassurez-vous que dans sous émotion, l'homme peut lâcher ou la femme qui était habituée et qui a grandi dans les injures peut facilement lâcher une injure. Mais une injure habituelle, on la découvre facilement. Si on ne peut pas vous injurier vous-même, mais l'homme là, qui va injurier dans le mariage, va souvent injurier d'autres personnes lorsque vous serez dans sa compagnie. Mais une telle personne, il faut déjà commencer à l'apprendre à respecter les autres, à éviter les injures, et ainsi, vous pouvez vous donner beaucoup de chances pour ne pas être injurié, vous et toute votre lignée.
Toute la lignée. Mais si vous êtes déjà dans le couple, vous remarquez que peut-être qu'il avait caché cette nature là, et c'est dans le couple que la femme découvre que c'est un mari qui a l'habitude d'injurier. Comment l'amener à changer de comportement?
C'est comme je dis, comme pour toute forme de violence, on tente un dialogue à deux. Si ça ne marche pas, on trouve une tierce, et si ça ne marche pas, alors comme dit la Bible, on va plus loin jusqu'au tribunal de paix. Parce que le tribunal de paix n'est pas chargé à simplement sanctionner ou faire payer des amendes, mais il est chargé également de l'éducation de la personne et pourra éventuellement prendre des mesures qui pourront faire réfléchir l'homme afin qu'il ne puisse pas continuer à injurier sa femme.
Voilà, peut-être que certains couples qui vous suivent en ce moment auront besoin de contacter vos conseillers conjugaux. Est-ce qu'il y a un numéro de contact par lequel ces couples peuvent vous joindre?
Oui, ils peuvent nous appeler au 099 99 47 127 ou au 099 99 20 88 3.
20, 88,
3.
Voilà, 88, 3. Donc 099, 99, 47, 127. Hein.
Oui.
Ça, c'est le premier numéro. Et deuxième, 099, 99, 20, 883. Voilà, ce sont là les deux numéros. Si vous voulez appeler, joindre M. Paul Mboula pour avoir peut-être un rendez-vous avec les conseillers conjugaux pour régler certains problèmes dans votre foyer. On a suivi, M. Paul l'a dit, faut pas contacter les membres de famille, peut-être voir les amis, aller voir un parrain, ou soit les conseillers conjugaux. C'est eux qui sont mieux placés à vous aider.
C'est la première démarche.
Oui.
Et avant d'associer les membres de la famille.
Voilà, Paul Mboula, éducateur et formateur au service central Éducation à la vie. Je vous remercie.
Merci, Daniel.
Au capé.